Super. Bah, Philippe, ce soir, Philippe va aborder la question « Tout abandonner pour Jésus, est-ce que cela vaut le coup ?» Mais on voulait profiter au maximum de la présence de Philippe. Et Philippe va nous apporter un séminaire sur le thème de l'évangélisation, c'est-à-dire comment parler de Jésus à nos amis francophones. Juste avant ça, je voulais prier. Je vais prendre 5 ou 10 minutes pour brosser un tableau du ministère francophone à Sainte-Hélène. Ce que nous essayons de faire, pourquoi avons-nous un ministère francophone et pourquoi faisons-nous ce que nous faisons. Prions ensemble. Notre Père, nous te remercions pour le salut que tu nous donnes. Merci pour la joie de pouvoir appartenir à ta famille. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ, pour la possibilité de proclamer son nom à ceux qui nous entourent. Et nous te remercions également pour la façon dont tu as utilisé ce ministère pour répandre la bonne nouvelle de Jésus à Londres. Nous te prions donc, Seigneur, que ce séminaire puisse nous donner des outils nécessaires pour parler de toi avec confiance. Seigneur, bénis Philippe pendant qu'il nous parle et que notre temps puisse porter beaucoup de fruits éternels et que tu nous mènes à avoir de bonnes discussions ce soir, ici, mais ailleurs aussi. Au nom de Jésus. Amen. Il existe depuis 10-15 ans, un ministère francophone à Sainte-Hélène. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce ministère a été lancé par des chrétiens comme vous. Je mentionne cela au début parce que je pense qu'il est important d'être au clair sur le fait que c'est notre ministère, c'est votre ministère. Ce n'est pas le mien, heureusement. Ce n'est pas le ministère de William Taylor. Non, c'est votre ministère, par la grâce de Dieu. Nous avons tous un rôle important à jouer. C'est comme si nous sommes l'équipage d'un avion et c'est notre objectif de... on veut que l'avion puisse arriver à destination, si vous suivez l'illustration. Et donc, nous faisons 4 choses dans ce ministère, 4 choses, 4 raisons. Nous voulons glorifier Dieu, nous voulons proclamer l'évangile aux francophones qui vont aller en enfer. C'est ça la réalité. Il y a des francophones qui vont aller en enfer. Et il y a des centaines de milliers de francophones à Londres. Je pense qu'il y a à peu près 200 000 francophones à Londres. Donc, c'est un grand nombre. Et cela n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'Europe francophone. Il y a véritablement des millions de personnes dans la francophonie qui ne connaissent pas le Jésus de la Bible. Et donc, nous voulons honorer Dieu en proclamant l'Évangile aux francophones de Londres, afin que les francophones dans le monde entier puissent l'entendre aussi. Nous voulons avoir un impact sur le monde francophone plus large. C'est donc pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Mais à quoi ça ressemble dans la pratique? Donc j'ai 4 E. Il n'y aura pas de test à la fin, mais premier E, c'est évangéliser. C'est ça ce que nous allons faire ce soir. Je pense que notre premier objectif, ou l'un de nos objectifs principaux, c'est de faire connaître Jésus aux gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Je pense que, vous me dites si vous êtes d'accord, mais je pense que la plupart des francophones n'ont aucune idée de ce que c'est l'Évangile et pourquoi il est important. Et à mon avis, la meilleure façon de faire connaître Jésus aux gens et d'apprendre à les connaître nous-mêmes par des amitiés. Pour beaucoup, le christianisme n'est pas pertinent, même dangereux. Mais quand un ami chrétien ose partager l'évangile avec quelqu'un d'autre, les choses peuvent se passer autrement, je pense. Et ma prière pour chacun de nous, c'est que nous ayons tous, un ou deux amis ou contacts francophones à Londres avec qui nous pouvons partager l'Évangile. Ça, c'est ma prière. Et il y a de nombreux moyens dont nous essayons de partager l'Évangile. Par exemple, les événements du samedi soir qu'on va faire ce soir. Et ces événements visent à nous offrir une opportunité d'amener nos amis non-croyants. Nous voulons que ça soit détendu, accueillant, mais également intentionnel. C'est-à-dire, il y a un message de la Bible au centre aussi. Mais une autre option, c'est que nous sommes en train de traduire des notes sur l'évangile de Jean. C'est Atalia qui les traduit. Et il s'agit d'une version française de l'évangile de Jean avec des notes explicatives que l'on pourrait facilement lire avec un ami non chrétien autour d'un café ou autour d'un repas, quelque chose comme ça. Et voilà, donc après une conversation personnelle ou quand quelqu'un vient à un événement, ouais, voilà, c'est l'étape suivante. Voilà, et si vous n'avez pas d'amis francophones à Londres, donc pourriez-vous vous en faire un ou deux? Je pense que c'est très facile de rencontrer des francophones à Londres. Il y a un bon site qui s'appelle meetup.com. C'est pas un site de rencontre, mais c'est facile. Venez m'en parler si ça vous intéresse. Si vous êtes anglophone, pourquoi pas trouver un partenaire de conversation avec qui vous pouvez pratiquer votre français. Il y a un site qui s'appelle Conversation Exchange. Ouais, voilà. Parlez à Sarah Hall. Elle l'a déjà fait. Elle a rencontré pas mal de Français par ce moyen. Voilà, ça c'est évangéliser. Donc premier E, deuxième E, édifier. Édifier. Donc nous voulons également servir les chrétiens qui viennent à Sainte-Hélène. Nous voulons que les gens grandissent dans la foi, sont édifiés comme un édifice, comme un bâtiment. Et donc c'est pourquoi nous avons une étude biblique hebdomadaire en français. Étudier la Bible en français, ça nous permet de ne pas nous attarder sur la grammaire anglaise, et ça nous permet aussi de prier ensemble. Bonjour Arlette. Ça nous permet de prier en français pour nous-mêmes et pour le ministère francophone. Et l'année prochaine, nous aurons un groupe en RML Marc. Et ce groupe sert comme un point d'accueil pour les gens qui veulent en savoir plus sur le christianisme et sur notre Église. Donc c'est un autre moyen pour inviter et pour évangéliser aussi. Mais ça sert à édifier les gens aussi. Et à ce stade, je voudrais juste dire que le groupe RML n'existe pas indépendamment du ministère de dimanche en anglais. Nous dépendons de William et les autres pour nous enseigner la Bible. Nous ne sommes pas une église à part, malgré le fait qu'il est souvent avantageux de rester en français. Donc, profitons des staffs anglophones, de nos frères et sœurs anglophones. Donc ça, c'est évangéliser, édifier, puis équiper. Je pense que la vie chrétienne n'est jamais statique, c'est-à-dire on est toujours en train de grandir dans la foi. Et je pense que la meilleure façon de grandir, c'est de servir. Jésus nous appelle non seulement à recevoir, mais aussi à donner. Et donc, nous voulons nous équiper à servir bien. Et c'est en partie pourquoi nous avons organisé ce séminaire, pour nous équiper à faire de l'évangélisation, pour nous équiper à mieux partager l'évangile avec nos contacts francophones. Mais c'est pas juste l'évangélisation, ça peut être étudier la Bible pour nous-mêmes, faire un message à votre église en France, donner un message au camp Interaction, quelque chose comme ça. Donc il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais notre but, l'un de nos buts, c'est de nous équiper à mieux servir Jésus. Et puis quatrièmement, exporter. Ma prière pour le ministère francophone, c'est que tout ce que nous faisons sert à l'avancement du royaume de Jésus en France, en Belgique, au Canada, dans le monde francophone, mais ici à Londres. Et je suis souvent rempli de joie quand je vois votre énergie et votre désir de servir Jésus les mardis soirs, les samedis soirs, les dimanches. Et pour certains d'entre nous, je pense que nous devrons retourner en France pour des raisons de travail ou de famille. Et si c'est le cas pour vous, j'espère que votre temps vous aura donné des outils pour mieux servir Jésus en France. Mais aussi, on dit souvent que chaque chrétien est impliqué dans le ministère à temps plein, et c'est vrai. Mais j'espère qu'il y aura deux ou trois parmi nous qui vont se dire « Oui, j'aimerais bien consacrer le reste de ma vie à servir Jésus à temps plein, c'est-à-dire pour une église ou de manière consacrée. » pour Jésus. Mais même si ce n'est pas vous, est-ce que je pourrais vous demander de prier que Dieu renvoie des personnes en France, des ouvriers qui sont capables et qui sont consacrés à l'œuvre de l'Évangile. Qu'y a-t-il de mieux que ça? Voilà les quatre E, évangéliser, édifier, équiper et exporter. Vous n'êtes pas des produits, on n'est pas des produits, mais voilà. Et vous aurez remarqué que ces quatre points se chevauchent, mais pour chacun, l'Évangile reste au centre. Donc c'est l'Évangile que nous proclamons aux événements du samedi soir, c'est l'Évangile qui grandit les personnes, c'est l'Évangile qui nous équipe, et c'est l'Évangile que nous voulons prendre avec nous quand on va ailleurs. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Philippe. Sachez que nous aurons quelques minutes à la fin pour poser des questions à Philippe. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les. En fait, je vais chercher des feuilles de papier. Voilà. Et Philippe va répondre aux questions à la fin.
Merci. Et juste pour être clair, donc, il est 16h56 et on a jusqu'à 17h30, c'est ça?
Je pense qu'on peut... Pardon, 45 minutes.
45 minutes, très bien. Okay.
Est-ce que quelqu'un veut un stylo ou c'est bon?
Bonjour à ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer avant. Merci d'être venu, bienvenue. Un micro, ouais, parce que c'est un peu, voilà. Merci. Attends.
C'est bon?
Je pense. 1, 2.
Ouais.
1, 2. Très bien. Merci. Très bien. Alors, je veux que cet atelier soit très informel et très interactif, si vous le voulez. Moi, je peux parler jusqu'à la fin, il n'y a pas de souci. Si vous avez envie que je parle tout le temps, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez des questions ou si ça vous interroge à un certain moment, levez la main et moi, je m'interromperai et on discutera de cela. La première chose que j'aimerais dire, c'est la phrase qui s'affiche à l'écran. L'évangélisation est une conséquence de la théologie biblique. Alors, est-ce que tout le monde comprend ce que je veux dire par la théologie biblique? Alors, personne ne fait rien, donc je vais expliquer un peu ce que je veux dire. Fut un temps, je pense que les évangéliques comme nous procédaient beaucoup par des versets un peu type. Donc, il y avait un verset qui disait ça, et puis on allait avec ce verset-là, et on mettait en pratique ce verset-là un peu isolément vis-à-vis du reste du récit biblique. Et on apprenait aussi des techniques, entre guillemets, d'évangélisation. Et donc, on apprenait les quatre lois spirituelles, par exemple, et on allait aborder des personnes, et on expliquait des choses selon ces quatre lois spirituelles, et puis on espérait que cela marche pour l'évangélisation. Et on citait un certain nombre de versets clés, peut-être, ça allait. Et moi, je me suis toujours trouvé un peu en porte-à-faux avec ça. Comme si on perdait un peu de notre humanité en procédant comme cela. Comme si on devait apprendre presque à être un être humain normal pour pouvoir entrer en conversation normale avec nos concitoyens, avec nos amis, nos voisins, nos collègues de travail. Et je pense que c'est parce qu'on dissociait beaucoup le message de l'Évangile et notre façon d'évangéliser avec la grande histoire que toute la Bible raconte. Et donc, c'est pourquoi je dis que l'évangélisation est une conséquence de, ou une réponse à, ou un résultat de la théologie biblique. C'est parce que la Bible raconte une seule et grande histoire, du début jusqu'à la fin, et que l'être humain a une place importante dans cette histoire-là, donc dans l'histoire biblique, dans la théologie biblique. Et c'est lorsque je comprends qui je suis dans le plan de Dieu pour le monde que l'évangélisation devient moins quelque chose que je fais ponctuellement, donc je sors évangéliser, ou ponctuellement je fais de l'évangélisation, et plus quelque chose qui coule de source. Parce que je suis qui je suis en Jésus-Christ, à l'image de Dieu, de ce fait, tout ce que je fais témoignage. Et l'évangélisation, le fait d'annoncer, de proclamer, de décrire le message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, devient un peu le point émergé de l'iceberg de ma vie. Et que tout correspond à cela. Et tout coule de la théologie biblique. Et donc j'aimerais que chacun ici présent trouve sa place dans la grande histoire que Dieu raconte dans la Bible de A à Z. Et que parce que tout le monde aura compris qui il est dans cette histoire-là, et parce que tout le monde aura compris qui est l'autre potentiellement dans le contexte de cette grande histoire-là, que chacun pourra un peu se décomplexer par rapport à l'évangélisation, se décomplexer complètement. Et voir que lorsqu'on explique qui est Jésus-Christ à quelqu'un et ce qu'il est venu faire pour nous, on n'est pas en train de demander à quelqu'un de rejoindre notre club et de devenir dans un petit cocon religieux où les choses ne sont pas comme les choses se passent dans le monde dangereux qui est au-delà des portes fermées de notre société. On n'est pas en train de demander aux gens de rejoindre notre club, mais de se retrouver de nouveau dans la grande histoire que Dieu raconte, de devenir enfin ce que Dieu entend par un être humain authentique. Lorsque j'explique la bonne nouvelle de Jésus à quelqu'un, lorsque je lui donne cette chance de croire en Jésus-Christ, je lui donne l'occasion, l'opportunité de devenir pleinement humain, de se réaliser pleinement en tant qu'être humain, rien de moins. Et donc, c'est pourquoi l'évangélisation, pour moi, est une conséquence de, une réponse à, un résultat de la théologie biblique. Il commence, comme vous le savez, dans Genèse chapitre 1, avec la création de l'univers, du cosmos, des cieux, de la terre, de tout ce qui est dans la terre, donc les espaces. Et puis Dieu remplit les espaces de différentes choses. Et à la fin, le point culminant de cette création, c'est la création de l'être humain. Et cette création-là est décrite de cette façon-là, vous l'avez à l'écran. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Lorsque Dieu crée l'être humain, il le crée à son image. Vous le voyez ? Pas. C'est mieux ? Voilà. Ouais, torticolis, hein. C'est jamais une bonne idée. Il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Mais lorsque on explique l'évangile à quelqu'un, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, il est enseveli, il est ressuscité afin que tu connaisses la vie nouvelle, afin que tu puisses toi aussi revivre. Lorsqu'on explique cela à quelqu'un, et lorsqu'on invite quelqu'un à mettre leur confiance dans ce Jésus-là qui est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, on est en train d'inviter quelqu'un à revenir à la base, à revenir à ce Dieu créateur qui les a créés à son image. Il y a tellement de choses à dire dans cela, mais si vous voulez vous retrouver dans ce verset-là, et si vous voulez voir votre évangélisation comme une conséquence à ce verset-là, une façon de résumer cela serait de dire la chose suivante. Lorsque Dieu a créé l'être humain, lorsqu'il vous a créé, lorsqu'il a créé Adam et Ève dès l'origine, il créa, il voulait un peuple à qui et par qui il révèle sa grâce et sa gloire au monde entier. C'est une sorte de prisme. Créant l'être humain à notre image, disait Dieu. Et l'image de Dieu, c'est une sorte de statue, une sorte de miroir de Dieu. Et la statue ou le miroir qui regarde le Créateur voit la gloire et la grâce de Dieu et puis transmet cette même grâce et cette même gloire au cosmos tout entier. Il est censé être Dieu dans le monde, le représentant de Dieu dans le monde. Et parce qu'il connaît Dieu, parce qu'il connaît sa grâce et sa gloire, il est capable, le seul capable de relayer, de communiquer, de montrer et de démontrer la grâce et la gloire de Dieu aux autres. Et il y a un verset qui suit donc dans Genèse 2,15 qui montre l'étendue de cela. Et c'est pourquoi je dis, et j'insiste dessus, que l'évangélisation que nous faisons, c'est une réponse à cette théologie biblique qui commence dans le Jardin d'Éden. Dans mon imaginaire d'enfant, le jardin d'Éden, c'était toute la terre. Toute la terre était jardin d'Éden. Il n'y avait que jardin d'Éden à la création. Mais si vous lisez attentivement les quatre premiers versets de Genèse 2, vous verrez que Dieu créa la terre et que la terre était quelque peu hostile à la vie. Il n'y avait pas d'arbustes, pas d'eau, pas de ceci, pas de cela. Et on se dit, mais c'est bizarre. Je pensais que le monde était parfait, entre guillemets, lorsque Dieu l'a créé. Et évidemment, dans la perfection de Dieu, c'était ce que Dieu voulait. Mais c'était perfectible. Le monde tel que Dieu l'a créé était sciemment et de manière volontaire perfectible. Dieu l'a laissé un peu en friche. Et lorsque Dieu créa la terre, il a planté juste à l'est, et pas dans toute la terre, mais juste à l'est, une partie de la terre qui était le jardin d'Éden. Donc vous lirez, Dieu planta dans l'est un jardin, le jardin d'Élis, le jardin d'Éden. Et Dieu créa l'homme de la poussière, il façonna, il insuffle la vie en lui, et puis il le prend et il le place, comme ce verset l'indique, dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Chaque être humain a donc le mandat de Dieu d'être un missionnaire dans un champ de mission. Le jardin d'Éden, il est là, et la responsabilité de l'être humain, c'est de cultiver et de garder ce que Dieu a créé, afin que ce jardin-là grandisse, 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 pour remplir enfin toute la terre de la grâce et de la gloire de Dieu, que l'homme, créé à l'image de Dieu, renvoie vers le reste de la création. Ça, c'est le mandat que Dieu donne à l'être humain. Évidemment, à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'évangéliser, parce que tout le monde connaît Dieu de manière personnelle. Dieu se promène dans le jardin. Adam et Ève ont accès direct à ce Dieu-là. Il n'y a pas la barrière du péché. Mais ce verset-là reste comme une sorte de fil conducteur dans tout le récit biblique. Dieu a créé l'être humain, et donc chacun d'entre nous, et aussi chaque personne qui se retrouve dans toute la ville de Londres et dans toute la terre, à l'image de Dieu, pour que chaque personne puisse refléter la gloire et la grâce de Dieu, et notamment ceux qui le connaissent comme nous le connaissons. Correspond à ce verset, un verset qu'on va citer tout à l'heure, dans Matthieu 28, 18 à 20. Le fait de vouloir étendre les frontières du jardin d'Éden afin que toute la terre soit couverte de la grâce et de la gloire de Dieu est quelque chose que Jésus va dire plus ou moins à la fin de Matthieu dans le grand ordre missionnaire. Mais nous connaissons l'histoire que l'homme dans Genèse 3, au lieu d'obéir à Dieu, au lieu de soumettre sa vie à lui, se détourne de Dieu et désobéit à Dieu. Il remet en doute sa bonté, sa vérité, sa force, sa puissance, sa bonté, et son amour et tout ce qu'il est. Et il commence à faire ce que bon lui semble. Dieu avait dit à ce moment-là que si l'homme péchait, si l'homme désobéissait à Dieu, si l'homme prenait ce fruit-là pour en manger, ce jour-là, il mourrait. Cette mort spirituelle intervient tout de suite. Cette mort spirituelle entraîne une mort à tous les niveaux, mort relationnelle entre Adam et Ève, mort dans tout ce que l'homme a à faire, tout ce que la femme a à faire. Donc l'homme, dans son travail, se retrouve frustré face à un monde qui ne donne plus ses fruits. La femme, dans son corps et dans la naissance de ses enfants, se trouve face à une pénibilité extrême. L'homme et la femme, dans leurs relations les unes avec les autres, se trouvent dans un conflit au lieu d'une harmonie parfaite. Et il y a l'hostilité qui est là. Et au lieu de la vie foisonnante, la vie bénie, la bénédiction de Dieu, il y a cette ennemi, il y a ce conflit, résultat du péché, la mort. Mais dans Genèse 3,15, verset repris par la suite, Dieu promet de faire quelque chose par rapport à cela. Que quelqu'un viendra et il écrasera la tête du serpent, celui qui a introduit dans le jardin d'Éden la rébellion contre Dieu. Lorsque nous nous replaçons dans la grande histoire que Dieu raconte de A à Z dans la Bible, notre évangélisation revêt un autre aspect, une autre importance. Ce n'est pas juste « rejoins mon club », c'est « revenez à la source de la vie. Revenez à ce Dieu créateur. Revenez à ce que cela veut dire d'être authentiquement un être humain à l'image de Dieu. Et lorsque moi j'ai compris ça, lorsque je réfléchis à cela, lorsque je médite ça, lorsque je sors dans la rue, dans mon voisinage, lorsque je suis avec les autres, je les vois autrement. Pas comme des cibles, mais comme des êtres humains créés à l'image de Dieu, pour qui Jésus est mort. Il y a un verset qui résume beaucoup de ces choses-là. Au milieu d'Habacuc 2, 14, lorsque Dieu est en train de parler justement de son jugement sur le péché, sur son peuple Israël d'abord, et après sur le peuple qui va lui punir, son peuple Israël, de la manière la plus atroce. Habacuc a du mal à croire ce qui va se passer. Et Dieu, au milieu de ces jugements-là, il y a une sorte d'accalmie, un moment de paix, où Dieu dit cela. Il fait une promesse magnifique. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Cela va avoir lieu. Ce n'est pas comme si Dieu va essayer, il espère que ça va marcher. Dieu va faire ça. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Il nous appelle à le rejoindre dans cette mission-là, par le remplissage de la terre entière, non pas seulement de la gloire de Dieu, mais de la connaissance de la gloire de Dieu. Il y avait un auteur britannique qui avait dit une fois que les huîtres glorifient Dieu mieux que les êtres humains, parce qu'au moins les huîtres font ce qu'elles ont à faire. Mais c'est mignon, mais ce n'est pas vrai. Parce que la connaissance de la gloire de Dieu est réservée aux êtres humains. Les montagnes ne connaissent pas la gloire de Dieu, les huîtres ne connaissent pas la gloire de Dieu, n'ont pas les capacités pour connaître cette gloire-là. Mais les êtres humains, si. Et ce que Dieu est en train de dire dans cette promesse-là, c'est que la terre sera remplie d'êtres humains qui connaissent la gloire, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Alors, les eaux recouvrent le fond des mers de manière entière. Il n'y a pas un centimètre carré du fond des eaux qui n'est pas couvert par les eaux. Et Dieu est en train de dire que le jardin d'Éden, enfin, sera l'équivalent de toute la surface de la planète. À un moment donné, toute la terre sera rempli de la connaissance dont les êtres humains créent à mon image, qui connaissent ma gloire, qui connaissent ma grâce, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Je le ferai, dit Dieu. Et l'évangélisation que l'on fait aujourd'hui rejoint ce grand projet que Dieu a depuis le début de la création. Et lorsqu'on voit que notre évangélisation rejoint ce projet-là, alors ça, ça motive, ça stimule, ça donne de la texture, une couleur différente à ce que l'on essaie de faire. On arrive dans le Nouveau Testament avec Jésus et avec tout cet arrière-plan-là que l'on vient de voir. Ne voit-on pas que Jésus est en train de faire autrement que récapituler, reprendre dès le début ce que Dieu avait toujours voulu faire à partir du jardin des jeunes. Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Genèse 1, 26 à 28. Remplissez la terre. Soumettez-la. Genèse 2, 15. Il la plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder, pour que ce jardin-là grandisse et remplisse la terre. Habacuc 2, 14. Toute la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur. Jésus, lorsqu'il envoie ses disciples faire ça, il est en train de demander à ses disciples de rentrer dans ce projet que Dieu a depuis l'éternité. Et lorsqu'on regarde ce qui se passe dans le livre des Actes par la suite, on voit que lorsque les disciples mettent cela en pratique, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont partout, ils annoncent la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ pour les péchés des hommes et des femmes, qu'ils appellent les hommes et les femmes à se repentir et à mettre leur foi en celui et l'unique qui peut les sauver de leurs péchés. Pour connaître la vraie vie, la vie abondante, on va en parler ce soir dans Jean. Pour recoudre avec leur Créateur. Et à garder, à obéir tout ce que Jésus a prescrit. Ils ont annoncé l'Évangile. Et l'annonce de l'Évangile massive, intentionnelle, dans toute la terre, avait pour résultat la création d'églises, l'implantation d'églises. Et c'est dans la communauté de l'Église que vous êtes que la Bible, l'annonce de la parole, a lieu de manière ordinaire, générale. La communauté de l'Église devient l'héros de l'Évangile. Et lorsqu'on vient là, lorsque quelqu'un, si quelqu'un devait venir, et les gens qui viennent ce soir, lorsque les gens viennent ce soir, ils sont censés vous regarder, vous, la communauté de l'Évangile, entendre la bonne nouvelle que nous allons annoncer et se dire, il y a une correspondance entre la vie riche de communion et d'amour que vous avez entre vous et cette annonce de l'Évangile qui fait sens, qui fait écho dans mon fort intérieur. Il y a quelque chose, une correspondance qui est attirante. Et il y a une personne, la personne de Jésus-Christ qui illumine mes pensées et à qui je veux venir maintenant. Et lorsque les disciples, lorsque les apôtres, lorsque les évangélistes du Nouveau Testament ont fait cela, la création de nouvelles églises avait pour but et pour impact dans leur communauté, dans leur tissu social, de voir des gens venir à Jésus-Christ. Si on demandait à Paul d'expliquer ce que lui, il faisait, et c'est ce qu'il fait dans 2 Corinthiens 4, les versets 1 à 6, mais les versets 5 et 6 sont particulièrement parlants. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons, vous serviteurs à cause de Jésus. Et regarde ce qu'il fait par la suite. Il prend tout ce que je viens de dire, et c'est pourquoi j'ai pris ces versets-là, et il les met ensemble dans une verset de théologie biblique riche et profond. Et il dévoile tout. Il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, donc Genèse 1, a brillé dans nos cœurs. Pour faire quoi? Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu, Habakkuk 2, 14, sur la face de Christ. L'implantation d'église que Paul pratiquait, l'annonce de l'évangile que Paul pratiquait, puisait ses sources et ses racines et sa motivation et sa façon de faire dans tout ce que Dieu avait mis déjà dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas un nouveau message, c'était le même message. Mais dans la face de Jésus-Christ que Paul annonçait. La lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé dans notre cœur. Lorsque quelqu'un devient chrétien, si vous êtes chrétien, vous, assis sur vos chaises, c'est parce que le Dieu créateur a fait un acte créateur dans votre cœur. Et quelque chose de l'ordre de la création du soleil a eu lieu dans votre cœur. Dieu a brillé dans votre cœur et il vous a donné la nouvelle vie. Et comment est-ce qu'il l'a fait? Il l'a fait en pointant notre regard, en dirigeant notre regard sur la connaissance de la gloire de Dieu, sur la face de Christ. L'image de Dieu, Genèse 1, 26 à 28, qui est censée relayer la gloire et la grâce de Dieu dans toute la terre. Habakkuk 2, 14, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu quand il recouvre le fond des mers. Trouve son accomplissement. Lorsque les uns et les autres entendent parler de Jésus-Christ et Dieu fait un miracle créateur dans leur cœur. Mais qu'est-ce que nous voyons lorsque on regarde à Jésus-Christ? Qu'est-ce que nous voyons de la gloire de Dieu sur la face de Christ? Si je devais vous dépeindre Christ là maintenant, ça ressemblerait à quoi? C'est celui qui est venu. Qui a connu l'incarnation, le Dieu de gloire qui devient un bébé, celui qui grandit, celui qui enseigne, celui qui meurt à la croix, celui qui est enseveli, celui qui est ressuscité, celui qui est monté aux cieux, celui qui siège à la droite de Dieu. Lorsque je parle de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ, c'est de ce Jésus-là que je vous parle. Et donc de ce fait, je vous parle de votre péché, de votre manquement, de vos désobéissances, de votre rébellion à Dieu, que Jésus, lui, prend sur lui à la croix. où Dieu pardonne nos péchés, et de la résurrection par laquelle Dieu montre que ce pardon-là a bel et bien eu lieu. Donc l'évangélisation est une réponse à la théologie biblique de toute l'histoire que Dieu raconte dans la Bible, et cela à son point culminant en Jésus-Christ. Il serait incomplet si on n'allait pas jusqu'à la fin pour citer l'Apocalypse au verset 10 et 9 du chapitre 7. Est-ce que cela va marcher? Est-ce que Dieu aura raison de l'histoire? Est-ce que l'histoire que Dieu va raconter aura une fin heureuse? Évidemment. Après cela, je regardais et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Toute la terre, remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme ils en recouvrent le fond des mers. Oui, cela aura lieu, il n'y a pas de doute. Donc ça, c'est le grand récit. Et ce grand récit-là, c'est le récit qui me motive, qui me passionne, qui fait du sens de ma vie, qui me donne envie de proposer cela aux autres pour qu'ils rejoignent le grand projet de Dieu. Mais comment faire? Comment faire? Alors ça, c'est très pratique. Et on a déjà entendu les bribes de réponses à cela dans ce qu'a dit Will. Et ce que vous faites là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Rappelez-vous de votre conversion. Okay, vous avez le moment en tête? Non? Oui? Ouais? Bon. Vous êtes converti ou pas? J'ai un gros doute là. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Et je me rappelle de cela très bien. Il y avait quelqu'un qui faisait une conférence Acte 29. Et cette personne-là travaillait aux Philippines parmi les personnes d'arrière-plan ou de foi musulmane. Il a dit quelque chose de très choquant. Il a dit, demander à quelqu'un de foi musulmane de devenir chrétien, c'est comme si on demandait à un homme de devenir une femme. Abigail est choquée là. Choquée. Mais il disait, c'est juste chose impossible. Ça ne rentre même pas dans la tête des gens. Et en fait, c'est pas mal comme image lorsqu'on va parler à nos concitoyens, à nos voisins. On demande un changement radical. C'est pas quelque chose d'anodin. Ce soir, on va poser la question, est-ce que ça vaut la peine de tout abandonner pour suivre le Christ? Tout abandonner, ça veut dire tout abandonner. Donc, c'est vraiment un abandon qu'on demande aux uns et aux autres. Et il dit, alors, ce que j'ai découvert en travaillant dans ce pays-là, aux Philippines, c'est que les deux circonstances, les deux conditions essentielles à la conversion de quelqu'un de foi musulmane à quelqu'un de foi chrétienne, il y avait deux choses absolument essentielles. Est-ce que vous voulez savoir les deux choses absolument essentielles? Et évidemment, on voulait savoir. Vous avez des stylos. Et donc, il a dit deux choses. Et après, je me suis dit, sérieusement? Et après, je me suis dit, mais c'est exactement la même chose pour tout le monde. C'est exactement la même chose pour tout le monde. Il a dit, ce qu'il faut pour que quelqu'un de foi musulmane devienne quelqu'un de foi chrétienne, donc à savoir cette personne qui entre dans le récit de Dieu, c'est un ami de confiance qui aime, qui marche avec la personne, qui connaît la personne, qui est connu de la personne. Et deuxième chose, la Bible entre les mains. Et j'ai dit, mais c'est comme ça que moi je me suis converti. Et j'étais pas de foi musulmane, j'ai jamais été de foi musulmane. J'ai grandi en effet dans une famille chrétienne. Mais qu'est-ce qui a fait que moi personnellement j'ai voulu suivre le Christ? Parce que j'avais des personnes de confiance qui m'aimaient, qui marchaient avec moi et en qui je voyais le fruit de leur foi en Christ. Alors, dans l'occurrence, c'était mes parents et mon grand frère. Mais peu importe, c'était des personnes qui vivaient leur foi. Et deuxième chose que j'avais, c'était la Bible entre les mains. Accès à la parole de Dieu écrite. Ce grand récit que je viens de raconter, j'avais ça et je le lisais ça. Les deux choses qui étaient nécessaires à ma conversion, je les avais. Et je parie que chacun d'entre vous, lorsque vous avez réfléchi à votre conversion, peut-être pas dans ces termes exacts, mais il y avait ces deux choses-là, ces deux éléments-là étaient présents. Alors, voici la chose que j'ai découverte dans 11 ans de ministère en France. Les choses se reproduisent assez naturellement à condition que ces choses-là se rappellent de leur nature essentielle. Les églises qui oublient qu'à un moment donné, elles étaient implantations d'églises, cessent d'implanter d'autres églises. Et elles deviennent une sorte d'église, voilà, assise, mais qui ne se bouge plus. Par contre, une église qui n'oublie jamais qu'elle a été à un moment donné implantée, et toute église a été implantée à un moment donné, il ne faut pas croire. Cette église-là, ce grand bâtiment, à un moment donné, ça n'existait pas. Et à un moment donné, quelqu'un est venu là et s'est dit, il faudrait une église là. Et les gens ont payé de leurs finances, de leur temps, de leur énergie, de tout ce qu'ils avaient pour créer cette église-là. Cette église-là, je ne sais pas si elle a oublié ou si elle s'est rappelée qu'à un moment donné, elle n'existait pas. Mais les églises qui se rappellent de cela, avant on n'existait pas, maintenant on existe, continuent à se reproduire. La même chose vaut pour les leaders. Donc Will, à quelques moments précis dans ton histoire, quelqu'un t'a dit, je pense que tu devrais te former pour être dans le ministère. Et si Will, il oublie cela, dans 2 ans, il ne fera plus la même chose avec d'autres personnes. Mais si Will se rappelle de cette conversation, ce moment-là magique, où quelqu'un lui a dit, Will, je vois en toi des qualités pour devenir quelqu'un qui pourrait se mettre à part pour le service de Dieu dans l'église, s'il se rappelle de cela, tous les ans, il va chercher des gens à faire cela. Il va se dire, quelqu'un m'a fait ça pour moi, donc je suis motivé pour faire ça. Alors, même chose, exactement la même chose pour ceux qui sont convertis, chrétiens. Si vous avez oublié qu'à un moment donné, vous n'étiez pas chrétien et que Dieu, dans sa grâce, vous a donné quelqu'un de confiance et la Bible, et que ces deux choses-là ensemble ont fait que vous avez cru en Jésus-Christ, si vous n'oubliez jamais cela, alors tous les jours, vous allez chercher à voir si vous ne pouvez pas partager ça avec quelqu'un. Parce que tellement vous serez reconnaissant que Dieu a, dans sa grâce, intégré le pécheur que vous êtes dans son grande histoire, la grande histoire de salut pour tout le monde, que vous allez reproduire la même chose. Et vous allez chercher à mettre la Bible entre les mains de celui avec qui tu vis ta vie. Un collègue de travail, un voisin de palier, que sais-je d'autre. Et l'innovation dans la mission que Dieu nous a donnée, l'innovation n'est pas trouver de nouvelles manières de faire. Parce que l'amour et la Bible, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Il n'a pas donné plus. Il ne va pas remplacer ça avec quelque chose d'autre. L'innovation dans la mission consiste à trouver des moments ou des endroits jusque-là inexploités pour accompagner les uns les autres et pour leur montrer la pertinence, la vérité et la beauté de ce message que je viens d'esquisser. Donc, qui dans votre entourage pourrait être au bénéfice de votre investissement dans leur vie? Je me rappelle, lorsque j'ai commencé dans le ministère, j'avais tellement de personnes, je me noyais sous un océan de personnes à qui je pouvais éventuellement présenter l'Évangile. Et je voulais prier pour tout le monde, donc j'avais commencé à prendre des listes de personnes, de noter des personnes pour qui je priais. Donc 10 personnes, ça va. Même moi, petit prieur que je suis, je pouvais arriver à prier pour 10 personnes. 20 personnes, 30, 50, 100. Et je me noyais sous des noms pour qui je devais prier. Et j'étais complètement dépassé par cela. Et le résultat, c'est que je cessais de prier, point. J'avais plus l'énergie et j'étais complètement déprimé dans la prière. Et je pense que vous êtes fait de la même étoffe que moi. Plus la tâche est énorme, moins vous êtes motivé pour le faire. Si j'ai 150 emails à répondre dans ma boîte mail, je n'ai pas envie d'y aller du tout. Si j'en ai 5, j'y vais avec plaisir et je fais les 5 et c'est bon. Vous avez dans votre entourage peut-être une centaine de personnes, peut-être 150. Et vous pouvez éventuellement viser à partager l'Évangile avec tous. Mais si vous essayez de faire cela, vous allez sans doute échouer parce qu'on n'est pas capable de bâtir et de construire des relations avec tant de personnes. Et on n'a pas le temps de lire la Bible avec 150 personnes par semaine. Même si on se donnait des quinzaines ou même des mois, 150 c'est trop. Et donc j'ai entendu quelqu'un dire une fois, faites pour une ou deux personnes ce que vous aimeriez faire pour tout le monde. Et ça va, n'est-ce pas? Si chaque personne ici se concentrer et se disait, cette personne-là, j'ai l'impression, j'ai la conviction que Dieu m'appelle à témoigner particulièrement vis-à-vis de cette personne-là. Donc, je vais chercher tous les moyens possibles d'accompagner, d'aider, d'aimer cette personne-là de manière gratuite. Et je vais aussi chercher des moyens de proposer la lecture de la Bible avec cette personne-là. Donc, j'étais très intéressé d'entendre qu'il y a de la traduction de notes explicatives de l'Évangile de Jean qui sont en cours. Mais peu importe, la Bible, elle est puissante en elle-même. Et les personnes que j'ai vues se convertir, souvent c'est en lisant l'Évangile de Jean. Souvent c'est en tête à tête. C'est très rare que c'est lors des soirées d'évangélisation. C'est très rare que ce soit dans les dimanches matins où on prêche l'Évangile. C'est pour la plupart les tête à tête où je peux poser la question de sage-femme, entre guillemets. Est-ce que tu as réfléchi à la nouvelle naissance? Est-ce que tu as réfléchi à donner ta vie et à croire en Jésus, à te repentir? Et c'est comme cela que les uns et les autres se positionnent lorsque je pose la question directement. Ma femme m'a épousé parce que je lui ai posé la question un jour. Est-ce que tu veux bien m'épouser? Et justement, les êtres humains réagissent très souvent à des questions précises qui demandent une réponse. Alors, il y a deux personnes qui vont se marier très bientôt dans cette salle de femmes. J'imagine et j'espère que les hommes en question ont pris la peine de poser la question. Et pas juste, on va se marier, n'est-ce pas hein? Mais qu'on vraiment... Parce que lorsqu'on pose la question, on a la réponse. Oui, non. Et lorsque on bâtit une relation avec quelqu'un, où la personne est en confiance et sait que ce que l'on veut pour la personne n'est pas de rejoindre un club et de devenir un être humain rétréci et amoindri, mais de devenir pleinement humain en Jésus-Christ. Et lorsque ça se voit et ça se sent. Et lorsque cette personne-là voit, par exemple dans l'Évangile de Jean, l'amour du Père pour ses enfants, dans l'envoi de son Fils, et lorsqu'il voit le Fils décrire sa mission comme il le fait, il donne sa vie pour ses brebis, afin qu'ils aient la vie en abondance. Lorsqu'ils comprennent cela, et lorsque tu poses la question par la suite, dans le contexte de cette amitié, dans le contexte de la parole ouverte, est-ce que tu veux suivre Jésus? La personne va réfléchir. Si elle dit non, elle dit non. Mais souvent, dans ce contexte-là, dans mes expériences à moi, la personne éblouie par la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ. Elle dit... J'aimerais bien y réfléchir. Je me rappelle très bien de Pascal. Pascal était là. Tu connais bien Pascal, donc c'est son vrai nom. Pascal et Diane. C'est celui qui s'est pointé le jour de son baptême avec un masque de scuba parce qu'il voulait faire une petite blague. Et j'ai dit, en fait, non. c'est mieux de ne pas faire de blague à ce moment-là. Donc, il voulait mettre son... En tout cas, oublier cela. Et donc, du coup, il est là, il me dit, il n'est pas chrétien, il me dit, Philippe, j'aimerais bien te parler de quelque chose parce que là, je deviens de plus en plus impatient avec mon fils. Et je suis vraiment frustré parce que j'aime mon fils, je ne veux pas être impatient avec lui. Je l'aime bien et en fait, tous les jours, c'est le conflit. Je suis impatient, je suis colérique, je crie dessus. Tu peux m'aider à faire moins ça? Et je lui ai dit, écoute, tu ne peux pas devenir moins impatient en faisant des efforts, en essayant de ne pas être quelqu'un qui crie sur son fils. Tu dois comprendre d'abord que Dieu est patient envers toi en Jésus-Christ. Et puis, fort de ça, être patient de la même manière envers ton fils. Mais ça passe uniquement par l'Évangile et par ta foi en Jésus et ta compréhension que Dieu est patient envers toi en Jésus-Christ. Et, ah d'accord, ah, c'est intéressant. Et donc on a continué à discuter, je lui ai donné un livre à lire et à la fin de ce livre-là, il y a la prière qui demande à Dieu de pardonner nos péchés et ainsi de suite. Et je lui ai dit, la semaine prochaine, on en parle. Et il a dit, d'accord. Et donc la semaine d'après, il est revenu, Pascal, et il a dit, est-ce que tu as lu le livre? Oui, j'ai lu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Il a dit, écoute, je pense que j'ai compris et j'aimerais bien prier cette prière-là. Et je lui ai dit, super, alors allons-y. Et donc il hoche la tête comme ça, et il prie, il dit, Seigneur, je te demandais de me pardonner de tous mes péchés passés, présents, Puis il ouvre un œil comme cela et il dit « Et à l'avenir ?» Et moi j'ai dit « Oui, et à l'avenir ?» Et puis après, c'était très drôle. Mais Pascal a compris l'évangile dans le contexte d'une amitié où on parlait des choses de la vie, de son impatience avec son fils, et où l'évangile était présent. Le pardon de Dieu pour tes péchés est l'élément décisif si tu veux grandir dans l'amour que tu veux avoir pour ton fils. Et la conversion de Pascal s'en est suivie. L'évangélisation est donc une conséquence, un résultat, une réponse à la grande histoire de toute la Bible. Et les deux composants essentiels dans l'évangélisation pour la conversion des uns et des autres, c'est des relations de confiance. Autrement dit, l'Église et la Bible, où la parole de Dieu est puissante, l'Évangile est puissant pour sauver. Et parce que vous ne pouvez pas faire ça pour tout Londres, il y a 8 millions de personnes à Londres, parce que vous ne pouvez pas faire ça pour tout le monde, choisissez plutôt une ou deux personnes, priez pour elles et faites le nécessaire. Donne-leur l'occasion de répondre à l'Évangile, comme quelqu'un à un moment donné vous a donné l'occasion de répondre à l'Évangile. Donc ça, c'est la fin de mon exposé. Je suis maintenant à vous pour des questions, si je n'ai pas été clair, si vous voulez rajouter des éléments que j'aurais oubliés. Je suis tout à vous pour des questions. Allez-y. Non, tu peux poser une question à Abigail ou pas? Non, ça va. Vas-y. Ah, tu réfléchis, tu n'as pas de questions. Oui.
Est-ce que vous commencez, enfin, car on a bien commencé avec une jeunesse, vous avez dit que c'est vraiment une grande histoire. Et parfois, je trouve que c'est difficile. Je sais pas où vous commencez.
Ouais.
Je commence un peu au milieu avec le mort de Jésus, ou peut-être c'est meilleur de commencer avec le jardin.
Très bonne question, oui. Alors, j'ai raconté l'histoire de Pascal parce que l'histoire de Pascal m'intrigue. Lorsqu'on est attentif, lorsqu'on écoute bien les gens, leur vie sont remplies de choses qui montrent une profonde dysfonction au centre de leur existence. La Bible appelle ce profonde dysfonction de plusieurs manières. Donc, il y a la folie. Donc, les gens sont fous dans leur façon d'agir. Ils reproduisent les mêmes schémas, ils espèrent avoir de différents résultats, ils sont toujours déçus. Et est-ce que cette déception-là ne les amène pas à réfléchir sur quelque chose? Et donc, c'est un peu la folie. D'autres personnes vont présenter les éléments de leur vie sous quelque chose qu'on peut appeler idolâtrie. Ils vont viser quelque chose, et dans la cité de Londres, je pense que c'est de l'argent, c'est la réputation, c'est la réussite. Et donc, l'idole qu'ils adorent va demander beaucoup de choses, de temps, d'énergie, d'investissement personnel, au détriment d'autres choses. Et ils vont être insatisfaits, ils vont être quelque part émus par cela. Il va y avoir des personnes qui sont juste conscients de leur péché, donc d'une culpabilité ou d'une honte quelque part. Il y en a qui cherchent leur identité, qui suis-je, pourquoi je suis là, et surtout dans le monde dans lequel nous vivons. Donc je pense que quelqu'un qui est vraiment en train d'être cette personne que j'ai décrite, à savoir quelqu'un qui accompagne, qui est ami, qui aime l'autre personne d'une manière désintéressée, va être capable de discerner dans le tissu de la vie que nous avons en face où sont les points de connexion entre la vie et l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que l'Évangile de Jésus-Christ, c'est avant tout la substitution pénale pour nos péchés. Donc, il meurt pour payer la dette que nous avons envers Dieu. Mais dans les sous-titres, il y a aussi Jésus comme sagesse de Dieu pour notre vie. Il y a aussi Jésus comme celui qui renverse les idoles de notre cœur. Il y a Jésus qui vient nous donner notre identité d'enfant de Dieu, et ainsi de suite. Et donc, du coup, la croix de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, qui il est, ce qu'il est venu faire, rejoint de manière merveilleuse les préoccupations des êtres humains que nous avons devant nous. Et les uns et les autres ne sont pas conscients de quelle manière l'Évangile rejoint leur propre histoire et par conséquence, comment leur vie rejoint l'Évangile de Jésus-Christ. Donc, peu importe si tu commences avec la création et l'image de Dieu, ou bien le péché et la culpabilité et la honte, ou bien l'idolâtrie, ou bien la folie, ou bien le manque d'identité, peu importe où tu commences dans cela, mais tous ces chemins-là mènent vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, par quelque moyen que ce soit. Et donc moi, je préconise d'être meilleurs écouteurs que discoureurs, d'abord. Donc d'écouter, de connaître les personnes. Je pense qu'un des signes d'amour les plus flagrants aujourd'hui, c'est d'être quelqu'un qui écoute bien. Et lorsque tu écoutes bien, lorsque tu prêtes vraiment attention à ce que l'autre dit, l'Évangile a mille façons de rentrer en contact avec cela. Et tu vas pouvoir facilement, à condition que tu connaisses un peu ta Bible, voir en quoi la Bible, la parole de Dieu, parle de ce sujet et rejoint la personne afin que la personne rejoigne l'histoire de Dieu. Donc, il n'y a pas d'ordre pour moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.
Quand tu parles de Pascal, ça m'a fait penser à tout ce que j'ai fait pareil dans le boulot. Sincèrement, j'ai l'impression d'être devenu un peu le pasteur dans mon équipe, même s'ils ne sont pas chrétiens. Ils viennent me parler de leurs problèmes. C'est assez étonnant. Et puis, je n'avais pas vraiment pensé en fait qu'est-ce qui nous particulier pour partager l'évangile avec eux, de partir de ce problème. Et bien, en fait, la vraie raison de tout le problème, c'est cette disconnexion qu'il y a entre toi et le jeu avec le tout créé. Dans ton expérience, tu as eu d'autres personnes que Pascal qui, de la même façon, t'ont approché en...
Alors, j'ai un contre-exemple, mais qui montre la même chose. C'est Christophe, avec qui je jouais au squash à l'époque. Et il sous-entendait que les chrétiens ou les personnes de foi avaient besoin de ça parce que ces personnes-là étaient quelque part faibles ou avaient des manques évidents dans leur vie. Donc, ces pauvres personnes avaient besoin quelque part d'une béquille. Et c'est vrai, mais uniquement si tu situes la béquille dont on a besoin et le manquement que nous avons au niveau du péché. Et donc, on discute. Et je lui disais, mais Christophe, regarde ma vie, regarde qui je suis, regarde ma famille. Tu vois très bien que la raison pour laquelle je suis chrétien n'a rien à voir avec mon état, entre guillemets. Et si tu veux, on se vaut à plusieurs niveaux. Et la seule chose qui nous différencie, en quelque part, c'est que moi, j'ai compris qu'il y a un Dieu qui existe, contre qui j'ai péché, et donc, de ce fait, j'ai besoin de Jésus. Mais toi, tu ne l'as pas constaté, et toi, tu ne le vois pas. Et donc, lui, il refusait de croire qu'il avait péché. Et donc, en l'absence de cette conviction-là, de péché, il n'avait pas besoin de Dieu. Mais au moins, c'était clair pour nous deux. Tu vois? Donc, il n'a pas dit, oui, tu as raison, parce qu'il ne voulait pas voir des faiblesses dans sa vie, des faiblesses dans sa façon de se construire, même des façons d'agir qui n'étaient pas très claires par moment. Il refusait de voir cela comme une conséquence de quelque chose qui manquait chez lui. Il refusait d'appeler cela par son nom. Et donc, du coup, il se tenait un peu à distance d'une conclusion qui aurait peut-être amené à un besoin de Dieu. Pas pour avoir de l'argent parce qu'il en avait, pas pour avoir une famille parce qu'il avait une, pas pour avoir des enfants, il en avait, pas pour avoir de la réussite ou de la bonne santé, et ainsi de suite. Mais justement parce qu'il avait tout cela et il était un peu dans son carcan. Il ne voulait pas voir que derrière cela, il y avait des besoins. Voilà. Mais souvent, les gens parlent de leur vie et des éléments bibliques. Et il suffit de bien écouter. Et puis, on a des occasions.
justement, en fait, moi je me demandais, tu disais, pour prendre des initiatives et poser des questions, que faire quand quelqu'un nous dit non? Que faire quand quelqu'un arrive à la conclusion, je dis non, j'ai pas de problème, mais ça m'intéresse pas.
Ouais.
Comment est-ce qu'on peut continuer à prendre des initiatives?
Ouais. Bah alors, moi je trouve que c'est évidemment pas la peine d'harceler les gens. On continue à aimer les gens et à être cet ami qui écoute, qui accompagne, qui est disponible, qui montre. C'est aussi pourquoi j'aime bien réfléchir à l'évangélisation dans le contexte de notre humanité commune et de la grâce commune. Pour aimer mon prochain, donc le fait d'aimer mon prochain, donc deuxième commandement, Jésus dit: tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour aimer mon prochain, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de me lever et de respirer. Et à ce moment-là, je suis responsable d'aimer mon prochain. Peu importe si l'amour se traduit par une évangélisation explicite ou pas. Tu vois ? Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas excusé d'aimer l'autre juste parce qu'il ne veut pas écouter mon évangélisation. Donc, peut-être je mets ça dans des cartons et j'en parle plus pour le moment parce que je vois que c'est pas fructueux, mais ça ne libère pas de la dette que j'ai en tant qu'être humain d'aimer ceux qui sont proches de moi, d'aimer ceux qui sont autour de moi. Ça, c'est juste être un être humain. La partie chrétienne en plus, c'est annoncer l'évangile. Mais je dois aimer ceux qui sont autour de moi. Et donc, je vais être le meilleur voisin, le meilleur collègue de travail, le meilleur ami possible, tout simplement parce que j'ai compris qu'être un être humain créé à l'image de Dieu implique d'aimer mon prochain. Donc, j'aime mon prochain, peu importe. Et puis, si je vois que les conversations sur les sujets chrétiens n'aboutissent à rien, parce que je crois à la souveraineté de Dieu et parce que je crois que Dieu a décrété deux moyens pour le salut des uns et des autres, la prière et la parole dans le contexte de la communauté. Si la personne ne répond pas, je peux encore une fois être décomplexé par rapport à cela et me dire: Dieu, tu sais mieux que moi. Si tu as une conviction qui perdure, alors prie, vas-y. Mais sois sage et sois... Ne culpabilise pas par rapport à ça. Mais voilà, c'est un peu cette attitude de confiance en Dieu, d'une attitude d'amour pour tous les êtres humains, parce que je suis créé à l'image de Dieu pour cela, et puis de profiter des occasions qui se présentent. Donc si dans les deux personnes, admettons que tu suis les recommandations que je viens de donner, et dans les 150 personnes que tu as autour de toi, tu choisis deux personnes, et que tu vois qu'après 6 mois, la personne n'a pas du tout intérêt à ouvrir la Bible ou à venir à une soirée ou autre. Alors, Christophe est venu à plusieurs soirées et on a eu plusieurs discussions très intéressantes. Et j'aime croire que c'était parmi les conversations les plus intéressantes qu'il avait en ce moment-là. Tu vois, il aimait ça, c'était craquant pour lui, mais il n'était pas convaincu à la fin. Ça va, donc je ne l'invite plus à ce genre de soirée, mais je reste très ami avec lui et j'espère le voir bientôt. Mais bon. Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est juste une sorte d'être décomplexé. Je veux décomplexer tout le monde par rapport à tout. Parce qu'on devient crispé et énervé parce qu'on se sent une obligation de... et donc, ça devient une technique ou une chose à faire plutôt que une grande histoire que Dieu est en train de raconter dans tout ce qu'il fait. Et donc, voilà. Et ça dénature complètement les relations qu'on peut avoir avec les uns les autres. Et nous aussi, on devient bizarre, quoi. Bizarre. On peut être très bizarre, les chrétiens. Il y a un verset que j'aime beaucoup. J'essaie juste de retrouver le contexte. C'est dans 1 Pierre. Il est en train de lister les raisons pour lesquelles on peut souffrir. Et c'est à la fin de 1 Pierre chapitre 4. On peut se faire plaisir, on peut regarder. Voilà. Ça, c'est en train de devenir un de mes versets préférés. Un Pierre 4. Les portables, c'est moins pratique, n'est-ce pas? Pour trouver les versets. Ok. Donc Pierre était en train de parler de la souffrance et que tout le monde va souffrir. Mais il dit, dans le contexte de la souffrance, verset 15 à la fin de 1 Pierre 4, « Cependant qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, on est d'accord qu'il ne faut pas tuer. » D'accord? Donc si vous souffrez parce que vous avez tué quelqu'un, Pierre dit, c'est de votre faute. Comme voleur, on est d'accord là-dessus aussi, donc il ne faut pas voler. Parce qu'il fait le mal, ou bien parce qu'il se mêle des affaires des autres. J'adore ça. Hein? C'est la quatrième chose qu'il dit dans la liste. Il ne faut pas tuer, d'accord? Il faut voler, voilà, faire le mal, d'accord? Ou bien se mêler dans les affaires des autres. Les chrétiens convaincus de la vérité de l'Évangile peuvent devenir juste des personnes énervantes. Moi, je veux éviter ça. Et donc, du coup, je veux aimer les gens, écouter les gens, mais ne pas devenir cette personne qui énerve par le fait de mêler dans les affaires des autres de manière un peu ingrate. En tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres questions suite à ces questions-là? Ouais. Ouais. Alors, moi, je suis d'une famille chrétienne. Il y a un de mes frères qui n'est pas chrétien et sa femme également. Et donc, on a eu des conversations. Encore une fois, c'était très intéressant. Ma belle-sœur lisait beaucoup de livres de développement de soi. Elle avait acheté une quinzaine de livres de développement de soi d'un bloc. Comment devenir moins impatient et je ne sais pas quoi. Et donc, j'ai eu pas mal de conversations avec elle par rapport à cela. Encore une fois, il s'agit d'écouter, de poser de bonnes questions et puis d'essayer de répondre lorsque les questions venaient. Mais je sais très bien que c'est très difficile. Donc, tout dépend de la relation que vous avez. Ce que fait ma femme, s'agissant de sa famille, c'est qu'elle prie pour d'autres personnes qui viennent dans leur vie, justement parce que ces personnes-là peuvent être plus décomplexées par rapport à ça, avec cette émotion intense que nous avons pour nos proches. Donc Rachel, elle prie pour les personnes qui viennent dans la vie de sa sœur ou de son frère ou ses deux frères, qui peuvent, elles, parler de l'Évangile. Donc ça, c'est une recommandation que j'aurais. Mais je dirais que si l'occasion se présente pour parler de l'Évangile, un peu comme Pascal, un peu lorsque les gens parlent et ont confiance et parlent de leurs problèmes, de voir ça comme un chemin qui mène à Christ.